بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 20 du mois d'Ul-Hijja de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 6 juin 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude de ce livre très profitable de l'imam Ahmad, l'imam de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui s'appelle Sharhu Usul Sunnah, qui a été commenté par l'éminent savant, le grand savant de la critique et de l'éloge de notre époque, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, on s'est rendu à un fondement, et regardez, j'attire votre attention sur ce point très important de constater qu'il est question d'un fondement parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et rappelez-vous toujours la règle qui a été mentionnée par l'imam Ahmad dès le début de ce livre, c'est que celui qui ne se conforme pas à un seul fondement parmi les fondements de la sunna, c'est qu'il ne fait pas partie des gens de la sunna. Et si quelqu'un vous demande comment quelqu'un puisse sortir de la salafia, et bien évidemment il est question de quelqu'un qui est déjà dans la salafia. Il y en a des fois, la question c'est pas est-ce qu'il est sorti ou pas, est-ce qu'il est entré déjà ? C'est ça la première question. Mais pour quelqu'un, pour lequel c'est affirmé qu'il fait partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, il peut sortir si jamais il ne se conforme pas à un seul fondement parmi les fondements de la Sunnah. Nous ne parlons pas d'erreur. Il n'y en a personne n'est à l'abri de faire des erreurs. Lakin, as-salafi, taruddu as-sunnah, comme a dit le Cheikh Rabi'. Salafi revient toujours à la vérité. La question, ce qui est problématique, ce qui est catastrophique, ce n'est pas de faire des erreurs. Qui ne fait pas d'erreurs? Bien évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui fait une vingtaine, une trentaine d'erreurs en donnant un seul cours. Celui-là, na'am, on lui dit, Inch'Allah, tu seras excusé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du moment que tu reviens à la vérité. Il n'y a pas de souci par rapport à ce niveau-là. Mais nous lui disons d'arrêter de dispenser des cours et d'aller apprendre avant de commencer à propager et de faire les choses dans l'ordre. Et on le remercie pour sa bonne intention, pour vouloir propager, mais on lui dit il faut propager la vérité. Et il faut tout d'abord commencer par la connaître et l'apprendre et se donner le temps nécessaire pour ceci. C'est pas t'apprends 6 mois à l'Institut de langue arabe et tu deviens le prêcheur. Ou là, tu apprends 1 an, ou là, tu apprends 2 ans. Partage ce que tu as appris, c'est une chose. Et ouvrir des réseaux partout et devenir une star de la da'wah, alors que peut-être on ne sait pas lire une phrase correctement en arabe, ça pose problème. Propager, quand on parle de propager, quel que soit ton niveau, c'est propager dans ton entourage, les membres de ta famille, ton épouse, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, et ainsi de suite, tes amis, et de ne cesser d'élargir ce cercle, plus tes connaissances augmentent. Hadawa, le juste milieu par rapport à ces points. Donc je vous disais, Ikhwa, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet extrêmement important, extrêmement brûlant, car il y a beaucoup de dérives chez beaucoup de hizbiyyin, beaucoup de sectaires, au niveau de ce fondement en particulier. Et bien, idnillah, si vous êtes attentif avec ce cours et avec les paroles de Cheikh Rabi' et tous les hadiths qu'il va rappeler, bien, idnillah, vous allez arriver à la bonne compréhension concernant ce fondement. Après, vous saurez ce que c'est la vérité. Vous saurez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète au sujet de ce point fondamental. Vous saurez ce que c'est la position de l'islam par rapport à ce point. Maintenant, ça vous convient, ça vous convient pas, c'est une autre question. Mais au moins, vous allez savoir ce que c'est l'islam. Est-ce que l'islam dit par rapport à ce point? Est-ce que c'est la vérité par rapport à ce point? Vous voulez, la personne elle décide de se conformer ou pas, c'est une autre affaire. Ce qui compte, et ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on n'attribue pas à l'islam, qu'on n'attribue pas à la sunna du prophète, ceux qui n'en font pas partie. Et de dire que les insurrections contre les gouverneurs, ça fait partie de l'islam et de la sunna, contre les gouverneurs musulmans. Taïb, nous commençons et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder l'aide et la facilité et la bonne compréhension à tous. Nous apprenons avec l'intention de mettre en pratique ce que nous apprenons. طيب الإمام أحمد دي والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. Donc الإمام أحمد دي il rappelle un devoir important et un fondement majeur parmi les fondements de la sunna, qui est l'écoute et l'obéissance au gouverneur. L'écoute et l'obéissance au gouverneur. Et il dit, le guide des croyants et le gouverneur des muslimines, c'est le vertueux et le déviant. Les deux. Quand on parle d'obéissance au gouverneur, on ne parle pas seulement d'obéir à un gouverneur qui est comme Abu Bakr Siddiq et comme Omar ibn al-Khattab. Car en général, la divergence n'est pas au sujet de quelqu'un comme Abu Bakr Siddiq, ce qu'on appelle le gouverneur juste et équitable. Le gouverneur qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. En général, il n'y a pas de divergence. Nous allons voir qui ne se conforme pas par rapport à ce fondement quand il est question de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, lakin d'une manière générale les gens ils divergent pas au sujet de Abu Bakr Siddiq ni de Omar radiyallahu anhu. Ce qu'on appelle les gouverneurs pieux et équitables et justes et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin faut savoir que le gouverneur concerne al-barr et le fajr également, le déviant, celui qui a des péchés, des désobéissances, du moment qu'il est toujours dans le cercle de l'islam. Yani, en autre terme, l'obéissance au gouverneur musulman. L'obéissance au gouverneur musulman. Il y a une seule condition pour que l'écoute et l'obéissance deviennent une obligation. Une seule. Amma, quand il est. C'est la question de l'islam, qu'il soit un musulman. Et c'est qui décide de son islam ou de sa mécréance? C'est pas les ignorants, c'est pas les débutants, c'est pas les prêcheurs, c'est pas les prédicateurs. Et c'est même pas les chouyours qui sont pas ancrés dans la science et qui n'ont pas l'expérience de la da'wah et dont les barbes n'ont pas vieilli, n'ont pas blanchi dans la connaissance de la sunna. C'est les savants qui sont bien ancrés dans la science, qui décident que tel gouverneur est sorti de l'islam et que son renversement est légitime quand les musulmans ont la capacité. Car rien n'est obligatoire qu'avec la capacité. Et que cet acte ne donne pas lieu à plus de méfaits et de dégâts et de conséquences néfastes que les méfaits qui sont déjà présents avec sa gouvernance. C'est qui connaît toutes ces choses-là? C'est ceux qui sont bien ancrés dans la science. Et si vous comprenez déjà ça, vous allez voir que chez les sectaires, chez les hizbiyyin, chez les innovateurs, ces fondements sont tout tous bafoués et non respectés. Celui qui arrive aux gouvernances, toujours l'imam Ahmad, il définit qui est le gouverneur duquel il parle. Et vis-à-vis duquel l'écoute et l'obéissance est une obligation religieuse. C'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et un suivi de son messager alayhi salam. Il dit également celui qui arrive à la gouvernance et que les gens se réunissent autour de lui et qu'il l'accepte. Donc en général, celui-là, c'est celui qui a été choisi par les musulmans. Et le choix du gouverneur n'est pas accordé à tous les musulmans, comme dans le cadre des votes et de la démocratie, qui est le jugement du peuple par lui-même. Alors que l'islam, c'est le jugement d'Allah. La démocratie, c'est le peuple qui juge. C'est la majorité qui juge. C'est pas Allah qui juge. C'est ça la démocratie. Et même ce principe, comme eux ils le définissent, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. C'est pas la majorité qui va choisir. C'est les hommes les plus forts du pays qui vont choisir. C'est ceux qui ont les capitaux, qui ont le pouvoir dans le pays. Ceux qui vont diriger réellement sans être dans les postes de ceux qui, soi-disant, dirigent. Yani même le principe de la démocratie, ce n'est pas la réalité. Ashab ru'us al-amwal, hum alladhina yahkumun. Et ça, alhamdoulilah, à notre époque, je pense que c'est devenu une chose très claire. Même dans les pays occidentaux, ils disent que c'est les gens qui choisissent, c'est les gens qui décident, mais ils décident de rien du tout. Peut-être ils vont décider du prix de la baguette. Là, les décisions importantes, ça ne revient pas à eux. En islam, ceux qui prennent la décision et ceux qui vont choisir le gouverneur, c'est pas tout le peuple. C'est ce qu'on appelle « ahlul halli wal aqd ». Les gens qui ont la science. Comme ça a été le cas pour Abu Bakr Siddiq. Il n'a pas été choisi par l'ensemble des musulmans, mais il a été choisi par les grands des compagnons. Et ce n'est pas le seul moyen de choisir le gouverneur. Aussi, le gouverneur peut être choisi par le gouverneur précédent. Comme c'était le cas de Omar radiallahu anhu. Il a été choisi uniquement par Abu Bakr Siddiq. Le gouverneur peut être choisi par plusieurs hommes de la communauté, comme c'était le cas de Uthman radiallahu anhu. Il a été choisi par les 6 qui ont été choisis par le gouverneur précédent. Omar ibn al-Khattab. Et le gouverneur peut être un descendant du gouverneur précédent, comme c'était le cas de Yazid avec son père Muawiyah, radiyallahu anhu Muawiyah, Ibn Abi Sufyan, le grand compagnon, le grand savant, parmi les savants des compagnons, Muawiyah Ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, il a choisi son fils. Donc il y a ça aussi en islam. Après, le devoir de celui qui choisit, ou de ceux qui choisissent, c'est de choisir le meilleur. Et le meilleur, ce n'est pas seulement le meilleur dans la religion. Car c'est une fonction qui demande certes la science de la religion, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la piété. Là, ça demande également une connaissance des politiques de gestion des gens et d'un savoir-faire particulier. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam a mis à l'écart certains compagnons par rapport à ses fonctions. Et il a choisi d'autres qui ont peut-être un niveau de religion et de science inférieur et un niveau même de mérite inférieur à eux. Lakin, ils avaient des compétences très fortes dans le domaine de la gouvernance et de gérer ce genre de poste. Et ce n'est pas les seuls moyens avec lesquels on accède au pouvoir. Ce n'est pas le seul moyen. Ensuite, l'imam Ahmad a dit « وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ » Celui qui les domine, qui domine les musulmans par l'épée, par la force. Il arrive au pouvoir par la force, quel que soit le moyen par lequel il arrive. Un soulèvement, un renversement de son précédent, ça c'est interdit. Lakin, il l'a fait, il est arrivé au pouvoir jusqu'à ce qu'il devienne reconnu comme gouverneur, donc ça devient un gouverneur légitime, auquel on doit écouter et obéir. Et on va comprendre les sagesses. On va comprendre les sagesses, et c'est très important de les comprendre, surtout à l'époque où les ambiguïtés sont répandues à ce sujet-là. Taïb. Donc, Cheikh Rabi, il dit qu'on doit écouter et obéir au gouverneur, au guide des croyants, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit pieux et vertueux, ou déviant et pervers, du moment qu'il est dans le cadre et qu'il est dans le cercle de l'islam. Celui sur lequel les gens se réunissent, ou celui qui arrive avec la force, avec l'épée, yani avec la force. Et il a donné l'exemple qu'il s'est insurgé contre un gouverneur précédent, par exemple, il est arrivé au pouvoir et son autorité était reconnue, ça devient un gouverneur légitime. Son acte est interdit, lakin, une fois qu'il arrive au pouvoir, on doit écouter et obéir. Pourquoi ? Il cite une première sagesse ici. Il va les citer au fur et à mesure de son explication. Parmi les sagesses pour lesquelles on doit écouter et obéir, même à celui qui s'est insurgé, étant donné qu'il est arrivé au pouvoir. Pourquoi il dit, Cheikh Rahimallah, il dit, car si un autre cherche à le renverser, et puis un troisième et un quatrième, ça sera des soulèvements et des renversements sans fin, et des luttes entre yani, ceux qui soutiennent chacun d'entre eux, sans fin. Et la communauté rentrera dans des divisions énormes. C'est pour ça, la règle, c'est qu'il n'est pas autorisé de s'insurger contre le gouverneur musulman. Lakin, si Allah décrète que quelqu'un arrive au pouvoir, même par la force, on doit lui écouter et on doit l'écouter et lui obéir. Que ce soit celui qui arrive à cette domination, il arrive par le choix et par les concertations et par le pacte d'allégeance, ou qu'il arrive avec la force. Jusqu'à ce qu'il ait il devient une force, une autorité reconnue, à ce moment-là, on se soumet à son autorité, afin de préserver les sangs des musulmans, afin de préserver le sang des musulmans. Car sinon, comme on a dit précédemment, ça va engendrer des conséquences désastreuses et des renversements sans fin dans la communauté. Et ça va affaiblir les musulmans. Ça va affaiblir les musulmans. Et Cheikh rappelle que l'imam Ahmad, il cite ce point de l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman dans les fondements de la sunna, auxquels tout le monde doit se conformer, et dans lesquels il n'y a aucune divergence tolérée. Et ça, ce n'est pas uniquement l'imam Ahmed. Aussi l'imam al-Bukhari, c'est ce qu'il a fait. L'imam muslim. Et ainsi de suite. Et celui parmi vous qui souhaite arriver à une certitude que c'est vraiment ça la position de l'islam, je lui donne un seul conseil. Et c'est suffisant. de revenir à l'authentique de l'imam musulman. Il a fait un chapitre qu'il a intitulé Kitabul Imara, dans lequel il a mentionné à peu près 46 sous-chapitres. Abouab. 46 sous-chapitres. Donc, le chapitre s'appelle Kitabul Imara, le livre de la gouvernance. Et après, il a fait 46 sous-chapitres. Dans chacun, il a rapporté des hadiths qui concernent tous les règles de la gouvernance. Et dans ces chapitres, il a mentionné une centaine de hadiths authentiques, bien évidemment. C'est l'authentique de l'imam musulman. Et ça, sans compter les hadiths qui sont rapportés avec plusieurs chaînes de transmission, de plusieurs voix, avec plusieurs narrations, sans les compter. Si on les compte, on arrive à 240 et quelques hadiths. 240 et quelques hadiths. Amma, sans les compter, on a déjà une centaine de hadiths authentiques dans lesquels il y a les enseignements du prophète alayhi sallam concernant ce chapitre qui est un chapitre très important pour la stabilité de la communauté et qui concerne la politique religieuse et non pas la politique des menteurs et des tricheurs et des voleurs et des arnaqueurs et qui disent aux gens ce qu'ils veulent entendre pour arriver à leurs propres intérêts. Pour arriver au pouvoir et pour arriver à l'argent, pour arriver à tout ce qu'ils veulent. Lakin, de lire ce que dit Nabi alayhi salam par rapport à ces sujets, comme ça, tu auras la certitude de ce que c'est la position de l'islam par rapport à ces sujets-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui veut se conformer, il se conforme. Celui qui ne veut pas se conformer, Allah guide qui il veut. Lakin, l'essentiel, c'est que personne ne puisse attribuer à l'islam ce qui n'en fait pas partie. Car il y a des gens qui disent que le khourouj fait partie de la religion de l'islam. Et si vous lisez ces hadiths, vous allez comprendre rapidement, dès le premier hadith déjà, que c'est des menteurs. Et que l'islam n'est jamais venu avec le khourouj, l'insurrection contre le gouverneur musulman. Lakina, il a ordonné l'écoute et l'obéissance et la patience. Et Cheikh Rabi rappelle encore une fois que l'obéissance, ça concerne le gouverneur vertueux et le gouverneur désobéissant. Le gouverneur qui a des déviants, qui a des déviances, que ce soit des innovations, des péchés, des grands péchés, du moment qu'il est dans l'islam, du moment qu'il est toujours dans le cercle de l'islam. Ce n'est pas un mécréant. Et je le rappelle encore une fois, c'est qui décide qu'il est sorti de l'islam? Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas sur les blogs, ce n'est pas sur Internet, ce n'est pas dans les forums, ce n'est pas un prêcheur de l'Jumu'a qui va vous dire que tel gouverneur, il n'est pas musulman. On revient aux savants bien ancrés dans la science. Car ils vont vous dire, s'il est sorti de l'islam, si c'est un bien pour vous de le savoir, ils ne vont pas vous le dire tout le temps. Et ils vont vous mentionner également les conditions pour le renverser. Car il ne suffit pas qu'il soit mécréant pour le renverser. Il ne suffit pas qu'il apostasie pour le renverser. On doit voir aussi al-masalih wal-mafasid. Et que les bienfaits, et que déjà qu'on ait la capacité de le faire, et que ça ne va pas conduire à un mal plus grand. Car l'islam ne vient jamais avec une législation qui donne lieu à plus de mal que de bien. Ça n'existe pas en islam. Donc le khawarij, le rawafid, tous les innovateurs, ils sont pas, en général, ils n'ont pas de divergence par rapport au gouverneur vertueux. Le problème chez eux, c'est le gouverneur déviant. Ils disent, Adam, on ne lui obéit pas. On obéit à celui qui est vertueux, qui ne fait pas de péché. Donc sur le principe, ils sont tous d'accord. Lakin, vous savez que Abu Bakr Siddiq, c'est pas un vertueux pour Rawafid. C'est même un mécréant pour l'Ithna Ashariya, les Rafida de l'Iran, aujourd'hui. Et vous savez que l'Iran n'a pas cet égarement est entré en Iran il y a quelques années seulement. Les Iraniens, avant, ils étaient sur la Sunna. C'est pour ça que vous trouvez que la plupart des grands savants du Hadith, c'est des gens qui viennent de cette région. Ils étaient sur la Sunna. Et même Nabi Islam a fait leurs éloges. Les éloges des gens de Faris. Et que le Khawarij, également, pour eux, Ali radiallahu anhu, c'est pas un vertueux. C'est pour ça, ils l'ont combattu. Et il les a combattus également. Dans le jour de Nahrawan. Il les a combattus, radiallahu anhu. Pour eux, il n'était pas vertueux. Lakin, quand ils sont d'accord que tel gouverneur est vertueux, tous ils disent, on l'écoute et on lui obéit. Et on ne s'insurge pas contre lui. Et sunna, c'est d'écouter et d'obéir à tout gouverneur avec la seule condition qu'il soit musulman. Amma, quand on peut choisir, bien évidemment, les savants, dans leur livre, ils mentionnent plusieurs conditions. Déjà, le gouverneur, il faut qu'il soit un homme de Quraysh. Un korachite. Yani, là, au niveau de la science, il y a des conditions au niveau de sa science. Il y a des conditions au niveau de sa piété. Des conditions au niveau de son attachement à la sunna. Et ainsi de suite. De son intelligence. De ses compétences dans la politique également. Il y a plusieurs conditions que vous trouvez dans les livres de l'fiqh. Lakin, ça c'est quand on a le choix. C'est pour ça que Sahaba, quand ils ont désigné Abu Bakr, quand ils ont désigné même Uthman, ils ont dit, on a choisi le meilleur d'entre nous. On a choisi le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre eux, adéquat à ce poste aussi. C'était le meilleur d'entre eux, dans la piété, dans la religion, et c'était le meilleur pour ce poste, radiyallahu anhu arda. Taïb. Ensuite, Cheikh a cité Hadith Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, dans lequel Al-Nabi alayhi salatu wassalam a dit, ou plutôt Ubad radiyallahu anhu, il dit, بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حديث عبادة رواه الإمام مسلم في كتاب الإمام. Donc ça c'est حديث Hadith Ubad ibn Samit, qui a été rapporté par l'imam muslim, dans justement ce livre de l'Imara, de la gouvernance, dans le sous-chapitre de l'obligation d'obéir au gouverneur du moment que ce n'est pas dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le titre qui a été donné à ce chapitre. Les titres des chapitres de l'authentique de l'imam muslim n'ont pas été donnés par l'imam muslim lui-même. Il y en a qui disent c'est Nawawi rahimahullah ou là d'autres savants parmi ceux qui ont expliqué ce livre. Lakin, les titres et les sous-titres de l'authentique de l'imam al-Bukhari, ça a été fait par l'imam al-Bukhari lui-même. C'est pour ça qu'ils disent la science de l'imam al-Bukhari se trouve dans le choix de ses titres. Quand il met le titre, déjà, il donne une indication de ce qu'il veut dans ce chapitre. Et c'est la même méthodologie qui a été suivie par l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le livre de l'unicité. Et dans d'autres livres, les mérites de l'islam et ainsi de suite. Il a suivi la même méthodologie. Il donne un titre qui te laisse comprendre et deviner ce qu'il veut dire dans ce chapitre. Et des fois, il ne le dit pas d'une manière explicite, mais il te laisse arriver à ce qu'il veut. Et tu vas le comprendre en lisant les arguments. Tayyib. Donc, Ubad radiallahu anhu dit, nous avons prêté serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en promettant de l'écouter et de lui obéir, que nous soyons dans l'adversité, la difficulté, ou dans l'aisance, la facilité. Dans tous les cas, dans toutes les situations et dans toutes circonstances, d'écouter et d'obéir. Du moment qu'il ne t'ordonne pas un péché. Si le gouverneur t'ordonne de boire de l'alcool, tu ne le bois pas. Sauf s'il y a une menace et tu es sous la contrainte. Lakin, la base, c'est que tu ne fais pas le péché. Mais tu continues à lui obéir dans ce qui est obéissance d'Allah. Khawarij disent, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'obéissance. Al-Sunna disent, il t'ordonne de faire un péché, tu ne le fais pas. Lakin, tu continues à l'obéir dans ce qui est obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'écoute et l'obéissance dans l'adversité, dans l'aisance, et que nous soyons pleins d'entrain ou animés d'une aversion. Que le gouverneur t'ordonne de faire ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Du moment que ce n'est pas un interdit, du moment que ce n'est pas une désobéissance, tu le fais. Même si nous étions injustement privés de nos droits. Allahu Akbar. Wa ala atharatin alayna. Même si le gouverneur fait preuve d'injustice à ton égard et de favoritisme à ton dépens. Yani, il se partage les richesses du pays entre eux, avec leurs proches, ceux qui les soutiennent, et ils ne vous donnent pas les richesses de votre pays. C'est ce que le Nabi Islam dit. Wa ala atharatin alayna. Ensuite, il a dit wa alla nunazi' al-amra ahla. Et ils ont fait le pacte d'allégeance également, ils ont prêté serment d'allégeance également sur le fait de ne pas disputer le pouvoir à ceux qui détiennent l'autorité. Sauf dans un seul cas, que le Nabi Islam a mentionné. Il a dit hatta taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan, jusqu'à ce que vous voyez, vous constatez, vous voyez avec vos yeux, ou vous savez avec certitude, même si vous ne voyez pas, car la vision, ça peut être une vision avec les yeux ou une vision scientifique. C'est-à-dire, tu sais la chose comme si tu l'as vue. Sauf si vous voyez une mécréance flagrante. Ce n'est pas aller cacher. Elle est flagrante. Et manifeste. Kufran bawahan. Au sujet duquel il n'y a pas de divergence. Et au sujet de laquelle vous possédez une preuve évidente, évidente et irréfutable. Venant d'Allah, c'est pas venant de la compréhension de tel savant ou de la telle savant. Regardez toutes ces conditions pour s'insurger contre un gouverneur. Faut qu'on ait une preuve évidente venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, une preuve irréfutable et que son acte soit un acte de grande mécréance. Il le fait publiquement, il le fait ouvertement et au sujet duquel il n'y a pas de divergence. Qu'on le voit ou qu'on le sache, c'est là où ça devient autorisé. Mais pas toute chose qui est à fond. C'est là où ça devient une obligation. Ou bien il revient, il se repent, sinon il ne faut pas le laisser à ce poste. faut le renverser. Mais ça devient une obligation. Mais comme vous savez, la wajiba illa ma'aqtida. Il n'y a rien qui est obligatoire qu'avec la capacité. C'est pour ça que les savants exigent d'avoir la capacité de le faire. Et que cet acte, yani le soulèvement, le renversement, ne va pas donner lieu à des méfaits plus grands que ceux qui sont déjà présents. Et ensuite, il a rapporté le deuxième hadith, hadith Ummi Salama, radiyallahu anha wa ardaha, قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, comme dans hadith Umm Salama رضي الله عنها, il a dit, certes des gouverneurs seront nommés à vos têtes. Vous serez dirigé par des gouverneurs, desquels vous allez reconnaître des choses, c'est-à-dire que c'est un bien. Vous allez voir qu'ils font des choses bien. Et vous réprouvez d'autres choses, c'est-à-dire vous allez voir aussi chez eux du mal. Le mal, c'est le mal dans la religion. Et le bien, c'est le bien dans la religion. Ensuite, Nabi alayhi salam a dit « Faman ankara faqad salim » Alors, quiconque désapprouve, sera certes préservé. Salim, salama, sera préservé. Bil inkar. Wa man kariha faqad bari. Par contre, celui qui éprouve de l'aversion pour ses actes blâmables, celui-là sera certes innocenté et disculpé. Sera innocenté. Et vous savez que le fait d'être préservé est meilleur que d'être tout simplement innocenté. Lakin, pas toute personne est capable de blâmer. Car pour blâmer l'acte répréhensible d'un gouverneur, ça ne se fait pas publiquement. Ça se fait dans la discrétion, entre toi et lui seulement. Et tu lui dis ce que tu as à dire. Et ce n'est pas sur les réseaux, là, dans les discours de l'Jumu'ah, là. Non. Ça, c'est la méthode de l'Khawarij. De le prendre par la main et de lui dire ce que tu as à lui dire. S'il accepte, alhamdoulilah, il n'accepte pas, tu as rempli ton devoir. Donc, mais ça, comme vous imaginez, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut accéder chez un gouverneur. Donc, c'est pour ceux qui sont capables d'accéder chez eux et de remplir ce devoir, sans rien craindre pour leur personne. Car s'il craint qu'il le tue, ce n'est pas une obligation. Mais par contre, s'il prend le risque et il lui dit quand même, il le tue, ça sera parmi les meilleurs martyrs auprès d'Allah. Lakin, c'est pas dans un discours de l'Jumu'ah. Il se rend chez lui. Il lui dit de bouche à oreille, face à face. C'est un des فهو أعظم الشهداء عند الله إن قتله. Comme ça a été rapporté dans le hadith. Lakin, s'il peut pas accéder auprès de lui, s'il craint pour sa vie, ou qu'il lui fasse du mal dans sa famille ou là dans ses biens, ce n'est pas une obligation de le faire. Mais s'il le fait quand même, il a un immense mérite. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, il ne peut pas blâmer, lakin, il doit obligatoirement avoir de l'aversion et détester ces choses blâmables chez ce gouverneur. Il doit les détester avec son cœur. C'est comme ça uniquement qu'il sera innocenté et disculpé. Sinon, il est dans le péché. Mais qui est dans le mal? Nabi Aslam a dit Walakin man radiya wa taba. En revanche, le péché incombe à celui qui agrée. Leur mal, il le légitime, ou il l'agrée, il l'accepte, il l'aime bien, et l'essuie également, dans ce mal. Il fait comme eux. Eux, ils ont fait un péché, eux, lui aussi, il dit, c'est un bien. Et il commence à le faire également. Donc rien que le fait de l'agréer, c'est un mal. Il est dans le mal. Car il n'a pas détesté avec son cœur. Et ça, c'est le degré minimum, comme on va voir dans un autre hadith que Cheikh a cité. Donc le minimum qui innocente le croyant et qui le sort du péché, c'est détester le mal. Et ça, c'est pas seulement par rapport au gouverneur, par rapport à tout mal que tu vois, même le mal que fait un kafir. Yani, c'est pour ça le danger de vivre dans des pays de kufr. C'est quasiment impossible d'avoir ça tout le temps. Tu prends des péchés sans rien faire. T'es passé à côté d'une statue de Jésus, ou là tu vois une femme qui n'est pas couverte, tu passes à côté d'une femme qui n'est pas couverte, est-ce qu'à chaque fois tu détestes et tu te rappelles que ça met en colère Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah déteste ces choses-là? Non. Ça peut arriver le premier jour, pendant une semaine, après, on finit par s'habituer au péché, par banaliser le péché. Et ça peut être plus grave que le péché lui-même. Et Sahaba, quand ils ont entendu ce discours du prophète, ils lui ont dit au messager d'Allah, « Afala nuqatilhum ya Rasulallah ?» N'est-ce pas qu'ils ont des choses blâmables? N'est-ce pas qu'ils commettent des péchés? Ils sont toujours dans l'islam, d'accord, mais ils font des péchés. Ils lui ont dit au messager d'Allah, « Est-ce qu'on doit les combattre au messager d'Allah ?» Il a dit non. Ma sallaw, Allahu Akbar. Il a dit non. Tant qu'ils font la salat. Et regardez ici, à Ikhwa. Al-Nabi A.S. n'a pas dit tant qu'ils accomplissent la salat. Parce que s'il avait dit tant qu'ils accomplissent la salat, est-ce qu'on accomplit la salat? Qui d'entre vous pense qu'il accomplit la salat? Faire la salat, c'est différent de l'accomplir. C'est pour ça que dans le Coran, il n'y a pas faire salat. Il y a toujours iqamat salat, l'accomplissement de la salat. Allah, il nous ordonne d'accomplir la salat et non pas de la faire. Lakin, eux, tant qu'ils la font, alhamdulillah. Quelqu'un d'entre vous peut se poser la question, quelle est la différence entre l'accomplir et la faire? L'accomplissement, c'est avec l'apparence et l'intérieur. Zahiran wa batinan. L'accomplissement, c'est en respectant ses piliers, ou là avant, ses conditions, et ensuite ses piliers, car les conditions précèdent l'acte. Bien faire ses ablutions, avoir des vêtements dans lesquels il n'y a pas de souillure, de retirer toute forme d'impureté du corps, du vêtement, de l'endroit dans lequel nous accomplissons la salat, et de se diriger vers le Qibla, toutes les conditions. Et aussi de faire ses piliers. Les 12, ou là les 14, ou là les 16 piliers de la salat. Dans At-Tuma'nina. At-Tuma'nina, c'est un pilier dans chaque pilier. La sérénité. Également faire ses obligations et faire ses sunan et s'éloigner de ce qui l'annule ou de ce qui est détestable dans la salat, le makrohat ou le mubtilat, et d'avoir le khushu', c'est ça accomplir la salat. C'est pas quelque chose de simple. Amma faire la salat, Wacha, il vient, il se lève, tac, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Comme faire du sport. En 3 minutes, il bâcle 4 rak'at de dhuhr. Il a fait la salat. Lakin, est-ce qu'il l'a accompli? Ça, c'est une autre affaire. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, regardez la précision. Il a dit, ma sallu. Qala, non, tant qu'ils font la salat. Allahu Akbar. Donc, du moment que le gouverneur fait la salat, c'est pas autorisé de s'insurger contre lui. Et c'est pas autorisé de venir avec le discours des sectaires qui disent, mais c'est un hypocrite, il l'a fait juste devant la télé, il l'a fait seulement le vendredi. Yahri, c'est pas tes affaires. Tant qu'il fait la salat, c'est un musulman pour nous. Ça, c'est hadith Nabi alayhi salam. Amma, c'est un hypocrite. Si tu commences à faire ça, pourquoi tu ne le fais pas pour tout le monde? Déjà, regarde, yani dans ces pays-là, où tu trouves ces khawarij qui critiquent leur gouverneur musulmine, tu vas trouver qu'un pourcentage important du peuple ne font pas du tout la salat. Ne font pas du tout, ni devant la télé, ni devant le satellite. Et d'autres, ils la font une fois par semaine. Il y en a qui font salat que le jumu'ah. Il y en a qui la font une fois dans l'année, le jour de l'Eid, parce qu'ils sont gênés devant la famille. Ils vont faire salat l'Eid et ils vont faire avec eux. Allah al-Mustaf. Nassalullah al-Salam al-Afi. Et quand on voit ces choses-là, la première chose qu'on doit se rappeler, c'est la négligence de Al-Sunnah wal-Jama'a, de leurs efforts dans la da'wah. Car les gens aiment le bien et veulent le bien. Mais da'wah n'est pas propagée comme il faut. Donc on doit voir à travers ces négligences des gens et cet éloignement de la religion des gens, avant tout, on doit voir la négligence de Al-Sunnah wal-Jama'a dans les efforts de la da'wah. Ceux à qui Allah a permis de connaître ce bien, de connaître Hadl Khair, ils ont des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ça. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne à tous. Alors, cher Rabbi, il dit, Nabi Aslam dit tant qu'ils font la salat. Alors que dire qu'ils acquittent ils donnent la zakat, ils font le pèlerinage, ils font l'umra, ils construisent des mosquées, ils donnent des aides à leur peuple, et ainsi de suite. Et ça peut varier d'un pays à un autre. Lakin, d'une manière générale, tous les présidents des pays arabes et tous les rois, tu les vois faire le hajj, tu les vois faire l'umra, tu les vois ici, par exemple, le Medina, on le voit beaucoup plus que ceux qui ne sont pas le Medina. Il y en a quand ils arrivent, ils ferment des endroits, on va dire, on sait que c'est le roi du Maroc qui est arrivé avec sa famille, c'est le roi de Hadi, c'est le président de tel pays d'Algérie, c'est le président tunisien qui est venu. On le voit souvent, Hadj. Alors, que dire qu'ils font toutes ces choses-là, qu'ils assurent la sécurité des voies des musulmines? Tu peux sortir de chez toi et te rendre à une mosquée et rentrer en paix chez toi, sans que quelqu'un te fasse du mal. S'il n'y a plus de gouverneur, ces choses-là n'existeront plus. Il n'y a qu'à voir les pays où on a fait des soulèvements, on a renversé le gouverneur, tous les dégâts que ça a donnés par la suite. Et l'exemple, c'est l'exemple de la Libye, que je connais très bien, car j'ai entendu énormément de témoignages de gens dignes de confiance parmi les salafis de ce pays. Alors que le Kadhafi, c'est un mécréant chez les hommes de science. Ce n'est pas un musulman. Quelqu'un qui dit qu'on doit retirer des passages du Coran, comme Qul huwallahu ahad, quelqu'un qui dénigre le Nabi alayhi salam, et il a tellement de mécréance. Et les savants, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'ils savent que cet homme, il n'est pas musulman. Il n'a rien à voir avec l'islam. Pourtant, ils n'ont jamais dit aux gens de le renverser, car il n'y a pas la capacité. Regardez le mal que ça a donné. Et c'est qui va encourager tous ces soulèvements? C'est bien évidemment les ennemis de l'islam qui ont étudié ces points et qui savent tous les méfaits que ça donne. Eux, ils vont les encourager. Et le pays, en général, il n'arrive plus jamais à retrouver la stabilité. Une fois que c'est fait. Cheikh Rabi, il cite quelques méfaits. Il dit لأن الخروج يترتب عليه مفاسد. Peut-être qu'on va terminer avec ça. Il y en a par la suite, il va citer une série de hadiths concernant ce point. Et j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur les hadiths et qu'on les lise tranquillement et qu'on tire les enseignements, si Allah nous le facilite. Donc, il a cité quelques méfaits de l'insurrection contre le gouverneur et le renversement du gouverneur, le fait de se soulever contre l'autorité en place. Il a dit يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفَاسِدْ وَعَدَّهَا قَالَ أَوَّلًا. Parmi les méfaits et les conséquences néfastes, ضَيَعُ الْإِسْلَامِ, la perte de l'islam. D'ailleurs, salat, tu ne peux plus sortir faire la salat. D'ailleurs, l'islam, la perte de l'islam. Et aussi, tu ne peux plus aller demander la science ou apprendre ta religion. Tu dois rester chez toi et même chez toi, tu as peur. Comme il va dire par la suite. وَضَيَعُ الْمُسْلِمِينَ, et également la perdition des musulmans, avec toutes les âmes innocentes qui seront tuées et tout le sang qui sera coulé injustement des musulmans, le nombre de morts que ça donne. Maintenant, ça donne la possibilité à toutes les personnes de faire ce qu'ils veulent. Ils vont piller les magasins, ils vont prendre ce qui appartient aux autres, ils vont prendre les femmes. Et la ruine de la nation. Yani les dégâts d'un soulèvement, la nation, elle met des années et des années pour le rattraper, si elle arrive à le rattraper un jour. Et la destruction des récoltes et de la lignée. La destruction des récoltes, les gens, ils vont, ils pillent, comme vous l'avez vu. Et aussi, ils agressent les femmes. Ils volent les femmes, ils les kidnappent. Et ça a été fait en Libye. Il y a des frères qui m'ont rapporté des témoignages que des brigands s'introduisent chez eux et ils prennent les femmes. Et personne ne doit bouger, sinon il le tue. S'il les laisse en vie, en général, il les tue. Est-ce qu'il pouvait faire ça pendant le Kadhafi? Bien évidemment, non. Sinon, il se retrouve direct en prison. La violation de l'honneur et de la pudeur également. L'humiliation et l'affaiblissement des musulmans au point de devenir une proie facile et une bouchée facile à avaler pour leurs ennemis. C'est pour ça, comme je vous ai dit, les ennemis de l'islam encouragent le soulèvement et l'insurrection et le renversement des gouverneurs. Avant de le faciliter et d'aider à ce qu'il se fasse, ils vont déjà mettre la pression à ces gouverneurs pour qu'ils aillent dans leur sens. Et dès qu'ils s'opposent, ils essayent de provoquer ces choses dans son pays. نسأل الله السلام والعافية ونسأل الله الثبات على التوحيد والسنة حتى نلقى الله عز وجل غير مغيرين ولا مبدلين. Nous allons nous arrêter ici. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.